Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 15 novembre 2019. Les chiffres économiques en Allemagne sont pourris. La trade war ne donnait pas de nouvelles jusqu'à qu'elle en donne hier dans les mots de Kudlow. La saison des trimestriels est terminée et les traders balancent entre hésitation et peur de rater le train. Mais heureusement, dans des journées comme ça, on a quand même des gars qui ont été déterrés de signaux techniques de derrière les fagots. Rien qu'à l'évocation de leurs deux noms, la température a baissé de 8 degrés. Forcément, avec des noms comme Hindenburg Omen et Syndrome Oama du Titanic, ça pousse à la motivation à son paroxysme. Les marchés sont donc au plus haut de tous les temps. À la clôture d'hier soir, le S&P 500 terminait à des niveaux auxquels il n'avait jamais terminé auparavant. Le Dow Jones et le Nasdaq n'en sont pas loin et la distance se compte sur les doigts d'une seule main. Pourtant, on n'est toujours pas content. Les intervenants n'osent rien faire et sont incapables de bouger le moindre petit doigt tant que l'on n'a pas de nouvelles sur le trade deal. Et on ne sait pas si le trade deal va changer la face du monde économique. Et une fois qu'il sera signé, le monde sera tellement parfait que des dizaines de licornes se mettront à galoper dans les champs et que des ailes pousseront dans le dos de Donald Trump. En tous les cas, la manière avec laquelle le marché se comporte actuellement donne l'impression que l'on attend quelque chose de presque aussi mythique qu'un mec qui marche sur l'eau et qui ensuite la transforme en vin. Et pas de la piquette, du bon vin qui gagne des concours et tout et tout. Donc, en attendant, encore une fois, une news du style « tout se passe bien du côté du trade deal » pour se rassurer, le marché n'a rien fait. En tout cas, aux USA, en revanche, en Europe, c'était tristounet parce que l'Allemagne a publié des chiffres économiques tout pourris et qu'on se rend compte que la croissance germanique est à peu près aussi dynamique et passionnante qu'un match de cricket. Dans cet environnement sans passion et où l'on tente de réécrire la loi de l'emmerdement maximum, il y a toujours des gens qui trouvent de nouvelles façons de s'amuser. Comme le doute étreint tout le monde parce que rien ne se passe du côté du trade deal, il y en a qui se sont plongés dans l'analyse technique pour nous trouver un truc à se mettre sous la dent et à tenter de déclencher le doute, l'angoisse et des envies de tout vendre et qui sait, peut-être même une petite panique bien sentie à l'approche de la fin d'année. Comme à peu près tous les 3-4 mois, il y a donc un type quelque part qui a découvert un Hindenburg Omen sur le Nasdaq. Alors un Hindenburg Omen, selon la définition du Dico, c'est une technique financière qui consiste à prévoir un crash boursier en se basant sur l'analyse technique. Cet indicateur se base sur le fait que beaucoup de valeurs atteignent leur plus haut durant l'année ou bien que ces valeurs atteignent toutes leur plus bas. Alors pour le détecter, il faut réunir un certain nombre de facteurs comme le nombre quotidien de nouveaux hauts et de nouveaux bas sur l'indice étudié doivent être supérieurs à 2,2% du total des volumes échangés. Alors celui-là, je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Sur l'année, le nombre de valeurs réalisant de nouveaux plus hauts ne doivent pas être plus de 2 fois supérieur au nombre de valeurs qui réalisent de nouveaux plus bas. Là, je suis en train de vous perdre. La moyenne mobile sur une période de 10 semaines doit être plus haute. L'indicateur McLellan négatif, ah bah oui, forcément. Le nombre de nouveaux hauts, new high, peut être plus grand que deux fois le nombre de nouveaux plus bas, new low. Waouh. Vraiment avoir envie, hein. Et puis, 2 signaux à 36 semaines d'intervalle validant le Hindenburg Omen doivent se succéder. D'accord. Donc, c'est sur 36 semaines. Ok, très précis comme truc. Voilà. Alors, donc, j'ai pas vérifié, mais il semble que nous soyons en plein dedans. Mais, comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, il paraît qu'en plus d'un Hindenburg Omen, nous avons aussi un syndrome du Titanic. Alors, j'avoue que celui-là, je connaissais pas, mais rien qu'à entendre le nom, j'imagine assez facilement que c'est pas une bonne nouvelle. Donc, le syndrome du Titanic, c'est un truc qui a été repéré par Bill Oama, dont on retrouve péniblement la trace dans 2-3 bouquins sur l'analyse technique. Bill a donc découvert que lorsque les nouveaux plus bas dépassent le nombre de nouveaux plus hauts dans la liste des composants d'un indice, et ça, 7 jours de suite, alors que l'indice est au plus haut depuis une année, le syndrome du Titanic est déclenché. Au cas où vous auriez un doute, les conditions de l'Omen, du Hindenburg et du syndrome du Titanic sont donc réunies. Et ensemble, cela devrait donc être pire que tout. Sans compter que, selon le type qui a découvert l'Omen du Hindenburg, qui était un mathématicien aveugle, cet Omen avait prédit le crash de 87. Ah bah voilà, tout c'est clair. Nous voici donc dans une situation proche d'un film d'horreur sur la bourse. 2 signaux méga bearish qui se retrouvent ensemble. Il va y avoir du sang sur les murs, ça va ressembler à une corrida. Quand le toréador s'est fait encorner, beaucoup de fun, mais ça se coud quand même un tout petit peu. Sans compter qu'en plus, on n'a pas de nouvelles du trade deal. La grande question qui se pose donc ce matin, c'est de savoir si ces 2 signaux mis ensemble vont nous pourrir notre Christmas rally que l'on attend ou pas. Une chose est certaine, rien que dans cette chronique, j'ai parlé du Hindenburg Hummel en mai 2019, soit 10% plus bas, et en août 2017, soit 30% plus bas, mais surtout 20% avant les tops de 2018. En gros, si on regarde l'historique de ces prédictions cataclysmiques, elles indiquent qu'un jour ça va baisser, mais peut-être que ça va monter avant aussi. Alors comme je dis souvent, je suis persuadé que chaque jour qui passe nous rapproche du prochain crash boursier, reste à savoir combien de jours. En résumé, comme il n'y a rien à dire, on se concentre sur des prédictions horribles, comme si ça se produit, comme ça, si ça se produit, on pourra toujours dire qu'on vous avait prévenu. On n'avait juste pas trop insisté, mais on l'avait dit. De toute façon, depuis que le Hindenburg et le Titanic ont passé la soirée ensemble à disserter sur qui avait la meilleure musique et que le Titanic eut gagné, parce que chez lui ça a duré quand même plus longtemps, Larry Kudlow, le conseiller économique de la Maison Blanche, a déclaré que, je vous le donne en mille, tout se passait bien au niveau du trade deal et qu'il n'avait jamais été aussi positif sur le fait que les Américains et les Chinois soient sur le point de trouver un accord. Il n'en fallait pas plus pour remettre un peu d'ambiance. Encore une fois, un politicien américain proche du dossier nous redit ce que l'on savait déjà, à savoir que ça se passe bien et les futurs sont en hausse, tout comme le moral des troupes. L'Asie en fait d'ailleurs la démonstration ce matin, puisque le Japon est carrément en hausse de 0,7%. Hong Kong explose littéralement de 0,3% et la Chine attend de voir en ne faisant rien. Quoique tôt ce matin, elle était quand même en hausse de 0,10%. L'or, c'est le survivant du moment. N'importe quel autre truc, un indice, une monnaie, un titre avec un chart pareil, se serait déjà fait défoncer, mais le métal jaune défie la gravité et refuse de se péter la figure. Alors peut-être que messieurs Hindenburg et Titanic y sont pour quelque chose. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin d'être rassuré par la couleur chaude des 12 de l'or en barre. Mais toujours est-il que l'or ne veut pas lâcher, il se traite à 1 467 $. Rien à signaler du côté pétrole, nous sommes toujours au-dessus des 57 $ et tout se déroule comme prévu. Dans les nouvelles du jour, on revient sur le fait que le trade deal se passe bien, mais que ce n'est pas simple. Il y a aussi Aurora dans le cannabis qui revoit ses plans de développement à la baisse après avoir constaté que ses revenus sont en baisse. Le titre se fait massacrer. Nvidia a publié ses chiffres hier soir. Ils sont nettement au-dessus des attentes et l'année horribilis semble derrière eux. Les prévisions sont bonnes, mais les analystes semblent dubitatifs. Le titre ne faisait rien after close. Autrement, Jeff Bezos hurle à la mort en remettant en cause le deal des 10 milliards que le gouvernement a signé avec Microsoft pour gérer leur cloud. Bezos estime que la mise au concours n'a pas été faire et qu'il y a eu des biais évidents dans les prises de décision. Bon, en même temps, quand dans la même casserole tu mets des politiciens, un contrat de 10 milliards de dollars et deux boîtes qui croulent sous le pognon, il faut quand même pas s'étonner qu'ici et là, un politicien ou deux pense à préparer leur reconversion en faisant financer leur chalet à Aspen avec des taux négatifs. Autrement, le procureur général américain estime que les compagnies comme Huawei ou ZTE ne sont pas dignes de confiance. Ça, c'était pour mettre un peu d'ambiance dans les négociations avec la Chine. Puis Alibaba a levé près de 14 milliards pour son IPO à Hong Kong, pendant que Daimler annonce qu'ils vont virer 10% des managers pour couper les coûts et gérer au mieux la transition vers la voiture électrique qui n'est pas simple. Bah alors, la faites pas, ne la faites pas. Au contraire, augmenter le nombre de moteurs V8 AMG, ça sera bien, bien plus drôle. Pendant ce temps, le Crédit Suisse tire à boulet rouge sur Tesla et estime qu'ils ne s'en sortiront pas dans le business de la voiture électrique et que le titre devrait ou pourrait perdre 40%. Et puis on terminera sur le fait que je n'ai pas abordé ce que Powell a dit devant le Congrès et la sous-commission des finances, mais comme il n'a rien apporté de plus que l'on ne savait déjà, j'ai estimé que le silence était une assez bonne réponse. Dans les publications du jour, nous aurons le CPI et le trade balance en Europe. Aux USA, nous aurons les retail sales, c'est le New York Empire State Manufacturing Index, la production industrielle et les business inventories. Pour ce qui est des chiffres du trimestre, la fin de la saison. Mais en ce vendredi, nous aurons encore JD.com en Chine et JCPenney aux États-Unis. Je sais, ça vous fait une belle jambe, mais il fallait que je rajoute encore deux lignes à ma chronique. Mis à part ça, Ferrari a sorti un nouveau modèle, la Roma. C'était hier à 13h15 à Rome que la firme au cheval cabré a dévoilé la bête. J'y étais. Vous pouvez retrouver mon article sur le sujet dans la rubrique Lifestyle ou en scrollant down un peu plus bas. On peut dire qu'elle ne fait pas l'unanimité, qu'elle ressemble à un croisement entre une Jaguar, une 911 et une Aston Martin, mais ça reste une Ferrari et même ceux qui en disent du mal rêveront de s'asseoir derrière le volant et de faire revivre le concept des GT des années 60. Je vous souhaite un excellent vendredi et je vous retrouve la semaine prochaine, j'espère en pleine forme. Excellent week-end à tous!